Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Graphite que vous écoutez sur la bande FM 94.9 ou également sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct et en différé. Nous sommes le samedi 29 janvier. Je rappelle, ce que je ne dis pas souvent, que cette émission est rediffusée tous les mardis matins à 10h sur l'antenne de Graphite. Donc là, on vous parle du samedi parce que c'est quand même le créneau habituel de cette émission, mais bienvenue à ceux qui nous écoutent un mardi matin, bien évidemment. Je m'appelle Jean-Noël et comme la semaine dernière, je retrouve Carole. Bonjour Carole.
Bonjour Jean-Noël, ravi de te retrouver.
Mais oui, mais ça nous rappelle cette grande époque d'insouciance que nous avons connue, oui. C'est pour ça, ça nous fait du bien de se retrouver ici au micro de Graphite dans ce studio qui s'améliore de plus en plus.
Magnifique
avec
studio.
Du nouveau matériel, évidemment, pour toutes les émissions vinyle par exemple, c'est quand même assez extraordinaire. Nous sommes donc, je vous le disais, le 29 janvier, il y a le dépôt en 1886 par Carl Benz du premier brevet de l'ancêtre de la voiture. C'est le tricycle Benz doté d'un moteur explosion qui pouvait parcourir 100 km à une vitesse moyenne de 15 km/h. Nous sommes à la fin du 19e siècle quand même, c'était assez fascinant. Beaucoup plus proche de nous, il y a un alignement Soleil, Terre, Mars. C'était le 29 janvier 2010. Et puis il y avait même un alignement avec la Lune en plus pendant une petite période. C'était observable depuis une partie de l'Europe. C'était en 2010. Naissance de François Vincent Raspail. Il est né un 29 janvier 1796. C'est un chimiste, botaniste et c'est aussi un homme politique français. Il est le fondateur de la cytochimie et c'est d'une médecine aussi populaire hein, parce qu'on appelle cette méthode la méthode Raspail. Il mêle étroitement durant toute sa vie ses activités de savant, d'entrepreneur et de militant politique. Alors, on a su que, notamment, Vincent Van Gogh était un adepte de cette méthode Raspail. Et dans une lettre qu'il a écrite à son frère Théo, eh bien, il écrit qu'il imprègne de camphre son matelas et son oreiller pour lutter contre l'insomnie. Et il peint une nature morte, notamment, qui représente une assiette d'oignon, un chandelier et un exemplaire du manuel de santé de Raspail. Donc, on peut trouver ça dans un tableau de Van Gogh. D'où le nom donc de Raspail, qui est tout à fait lisible. François-Vincent Raspail. Alors, Raspail, pour les Parisiens, ça leur rappelle le nom d'un boulevard, par exemple. Donc, c'est un nom qu'on connaît comme ça, mais on ne sait pas précisément derrière que c'est un chimiste et un botaniste également. C'était un petit peu l'époque, vous savez, où on touchait à tout quand on était scientifique. Beaucoup plus proche de nous, 20e siècle, la mort le 29 janvier 1934 de Fritz Haber, chimiste allemand qui a reçu le prix Nobel de chimie en 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac. Importante, bien sûr, pour la fabrication d'engrais et d'explosifs. Il est également considéré comme le père de l'arme chimique pour ses travaux sur le chlore, le dichlore précisément, et d'autres gaz toxiques largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Il était d'origine juive, il a donc été contraint à l'exil en 1933. Il mourut sur le chemin de Bâle en Suisse en 1934. Fritz Haber, chimiste allemand, donc, qui a donc découvert notamment la synthèse de l'ammoniac. Voilà pour l'éphéméride de ce 29 janvier. C'est toujours intéressant d'avoir un petit peu des noms de scientifiques comme ça que l'on évoque. C'est toujours aussi intéressant de voir que aujourd'hui les scientifiques sont un petit peu plus spécialisés dans un domaine, évidemment, mais à l'époque, on était un petit peu... On découvrait, on papillonnait, ça devait être une époque formidable quand on était scientifique,
parce qu'on
touchait à tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà pour cette éphéméride. Carole, je te laisse la parole. On va profiter que tu sois là et tu vas encore pouvoir assouvir ton envie de parler des hommes encore et toujours, c'est ça?
C'est ça. Bien vu, en effet, puisque je vais parler de la découverte d'une nouvelle cause d'infertilité masculine. C'est un article qui a été relayé donc, au mois de janvier dans Science et Avenir, puisque une nouvelle cause d'infertilité masculine vient d'être découverte, ce qui rebat les cartes de ce que finalement on connaissait jusqu'alors sur cette pathologie. En fait, c'est une étude qui jette une nouvelle lumière sur l'infertilité masculine. Et cette cause inédite, elle vient d'être découverte par une équipe de scientifiques de l'université de Newcastle au Royaume-Uni, avec des travaux qui ont été publiés dans la revue très sérieuse Nature Communications. On estime en effet qu'environ 7% des hommes sont touchés par des problèmes d'infertilité. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on en entend pas mal parler en ce moment de l'OMS, l'infertilité masculine correspond à une maladie du système reproducteur définie par l'incapacité d'obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Au sein des couples, les problèmes de fertilité seraient dus à l'homme dans 50% des cas. Bon, au moins, c'est égalitaire.
La parité, 50-50.
Toujours. Par ailleurs, dans environ la moitié des cas d'infertilité masculine, la cause reste inexpliquée. On connaissait jusqu'ici des gènes responsables de ce problème, des gènes qu'on nommait en fait récessifs, c'est-à-dire que pour qu'ils soient transmis, eh bien, il faut en fait que ce soit à la fois par la mère et par le père pour qu'ils soient activés, qui est à chaque fois donc une copie du gène. Mais les scientifiques de l'université de Newcastle viennent de mettre en évidence un nouveau mécanisme génétique qui rebattrait totalement les cartes. Alors, c'est le professeur Joris Veltman, doyen de l'Institut de Bioscience de l'Université de Newcastle au Royaume-Uni, et qui explique « Il existe de nombreuses causes d'infertilité masculine et environ 15% de celles que nous connaissons ont une origine génétique. Quand l'infertilité est sévère et qu'aucun sperme n'est produit, c'est d'ailleurs la génétique qui est en cause le plus souvent. » Cette fois, les mutations identifiées ne sont pas héritées de la mère et du père. Les experts ont découvert que ces changements dans l'ADN surviennent au cours du processus de la reproduction, lorsque l'ADN des deux parents est répliqué. Alors, des erreurs de réplication surviennent sur des gènes responsables plus tard de ce qu'on appelle la spermatogénèse, ce qui peut entraîner une infertilité plus tard dans la vie chez les hommes porteurs de ces mutations. Donc ce que nous dit le chercheur, c'est « Dans notre étude, nous avons collecté l'ADN d'hommes infertiles et de leurs parents, en tout 185 personnes. Jusqu'à présent, aucun autre groupe de recherche n'avait pu mener des travaux d'une telle ampleur. » On parle souvent du nombre d'individus étudiés. Donc là,
c'est un indicateur toujours à prendre en considération.
Là, visiblement, en tout cas, 185, c'est significatif à leur niveau. Donc, ils ont étudié tous les gènes que portaient ces patients et leurs parents et ils ont pu identifier 145 nouvelles mutations. 29 d'entre elles concernent des gènes connus pour jouer un rôle important dans la reproduction masculine. Les mutations sur ces gènes peuvent donc sévèrement modifier leur expression et entraîner une infertilité. Alors pour le moment, par contre, il est impossible de savoir exactement l'action de ces mutations sur la spermatogénèse. C'est-à-dire qu'il va falloir mener en fait d'autres travaux pour identifier le rôle de chacune d'entre elles. Ce qui est certain par contre, c'est que cette mutation, elle pourrait être à l'origine de lignées entières d'hommes infertiles dans une même famille. Tous arriveraient finalement à se... Parce qu'on va dire comment du coup ça, ils peuvent se reproduire. Eh bien tous, ils y arriveraient en ayant recours à l'aide médicale à la procréation, mais transmettraient toujours cette mutation à leur descendance. Et ce que nous dit toujours le chercheur, c'est que nous pensons que ces mutations causent des formes dominantes d'infertilité chez les hommes, au contraire des autres gènes identifiés jusqu'à présent qui sont récessifs, comme je le disais là précédemment. Il y a donc une chance sur deux pour qu'un homme passe cette mutation à son fils, et lui-même à ses fils, et ainsi de suite. Et une chance sur deux, c'est beaucoup. Hein. Du coup, chaque génération aurait alors besoin de se faire assister dans son projet d'enfant pour espérer y arriver. Donc pour le moment, on ne sait pas combien de personnes sont concernées par ces mutations, donc j'imagine au sein de la population générale, hein, ni quelle part des cas d'infertilité est attribuable à cette nouvelle cause. C'est en tout cas un changement total de paradigme pour les couples infertiles qui leur offre de nouveaux espoirs. L'équipe de Newcastle a monté donc un consortium de chercheurs qui devrait creuser plus amplement cette nouvelle piste dans de futurs travaux.
C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on aborde ce sujet-là sous l'angle génétique, en fait. Parce qu'on aborde plutôt les perturbateurs endocriniens dans ce domaine de l'infertilité.
Oui, qui viendraient du coup perturber ou
donc, du coup,
empêcher
la reproduction. Voilà, on serait dans un environnement néfaste dans ce domaine-là. Mais là, c'est d'un point de vue héréditaire, entre guillemets. Donc, c'est assez inédit, en fait, comme information, effectivement. C'est même assez surprenant qu'on découvre cette information
aussi tardivement
en 2022, c'est assez étonnant d'ailleurs.
Mais du coup, c'est là qu'on découvre que dans 50% de cas d'infertilité, c'est dû à l'homme. Et dans ce pool-là, en fait, il y a plus de la moitié des cas qui sont inexpliqués.
Donc, c'est une information qu'on n'avait pas.
Exactement. Donc là, on est en train de commencer peut-être à expliquer une petite partie. Alors, comme ils le disent, on ne sait pas exactement à combien de pourcentage de cas finalement d'infertilité ça correspond derrière. Mais moi, je ne m'attendais pas à en fait encore autant de causes inexpliquées, surtout vu tout ce qu'on connaît maintenant sur tout le mécanisme de la reproduction et tout ce qu'on est capable aussi de faire quand justement on permet la reproduction aux couples infertiles.
Non, mais on en découvre tous les jours et c'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, ce qu'on ne savait pas, c'est vrai, comme tu le disais, ce nombre important de... On ne sait pas la cause. Ce qui doit être horrible quand tu es dans ces cas-là.
Oui.
Tu sais que c'est toi, entre guillemets, responsable et tu ne sais pas pourquoi. C'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est effectivement... Donc là, on a quelque part, cette information nous permet de se dire, on va pouvoir peut-être comprendre. Après, on essaiera de résoudre.
Exactement.
Mais tout au moins comprendre pour essayer d'en savoir plus. Très bien, eh bien écoute, merci Carole pour cette information. On va revenir sur des informations un peu plus joyeuses. Non, en fait, pas du tout.
J'allais dire, je comptais sur toi. Et
pas
non.
Du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, il y a une information qu'on évoque très souvent depuis le début du mois de janvier. C'est cette nouvelle limite planétaire qui vient d'être franchie. On parle de plastique, de pesticides, de peintures, d'antibiotiques, de médicaments. On considère qu'il existerait aujourd'hui environ 350 000 types différents de produits chimiques manufacturés, c'est-à-dire produits par l'homme, sur le marché. 350 000. Et selon des chercheurs suédois, leur production a été multipliée par 50 depuis le début des années 1950. Et ça devrait même encore tripler d'ici 2050. C'est-à-dire qu'en clair, on est dans une situation, une dynamique presque exponentielle. L'ennui, c'est que des volumes non négligeables de ces produits chimiques se retrouvent chaque année à polluer bien sûr la nature et à un rythme que les chercheurs qualifient aujourd'hui d'incompatible avec l'idée de rester, je cite, dans un espace d'exploitation sûr pour l'humanité. Nous aurions ainsi franchi ce que les chercheurs appellent une limite planétaire. Alors, rappelons que cette notion de limite planétaire, c'est une notion assez récente, elle date de 2009. Les chercheurs en ont fixé 9. Elles permettent de délimiter l'état d'une façon un peu stable dans lequel la Terre s'est installée depuis l'aube de notre civilisation, donc il y a environ 10 000 ans d'après ces études. Et si nos activités se cantonnent encore en dessous de certaines d'entre elles, comme celles qui concernent l'utilisation de l'eau douce, eh bien, il y en a quelques-unes qui ont déjà été franchies, ces limites, comme celles relatives au changement des usages des sols. La limite rattachée à la pollution chimique restait quant à elle encore à quantifier. Eh bien, c'est désormais chose faite. Et les résultats donc, des chercheurs ne sont pas rassurants. On s'en doute. Il existe en effet de nombreuses manières dont les produits chimiques manufacturés en général et les plastiques en particulier peuvent avoir bien sûr des effets négatifs sur notre environnement et tout au long de la chaîne de production, que ce soit de l'exploitation minière jusqu'à la gestion des déchets, bien, tout ça est bien sûr pris en considération dans cette étude et certains de ces produits ont même été retrouvés jusqu'en Antarctique. Comment, on n'en sait rien. En tout cas, ils doivent être aussi extrêmement persistants. Et c'est toute la complication, bien sûr, c'est que ça reste et ça dure. C'est tout le problème. Les chercheurs notent par ailleurs que ces produits chimiques peuvent aussi affecter les autres limites planétaires. Lorsque l'on recourt à des combustibles fossiles pour les produire, on pense bien sûr au pétrole pour le plastique, et que les microplastiques viennent polluer les réserves d'eau douce, par exemple, et bien là, on voit très bien les impacts qu'il peut y avoir sur les autres limites planétaires. Et même si les scientifiques estime que la vitesse à laquelle ces produits apparaissent dépasse aujourd'hui de loin la capacité des gouvernements tant à évaluer les risques qu'à essayer de contrôler les problèmes potentiels, ça nous échappe en clair. Eh bien, les scientifiques en appellent à la mise en place d'un plafond de production et de rejet de produits chimiques. C'est utopique, mais à la rigueur, pourquoi pas, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Par exemple, les plus frappants, c'est donc celui du plastique, dont la masse totale sur notre planète est désormais le double, la masse totale des plastiques sur notre planète est le double de la masse de tous les mammifères vivants.
Ça paraît fou.
Oui, parce que quelque part, on ne s'en rend pas compte.
Non.
Tu prends la masse de tous les mammifères vivants, tu doubles et tu as la masse de plastique.
Non, c'est
On sait que...
Ça fait froid dans le dos.
Bah oui, parce que le problème, je parlais tout à l'heure de problème de persistance, 80% de ces plastiques restent dans l'environnement, bien évidemment. Et en plus, leur dégradation va produire de nouvelles combinaisons qui peuvent du coup avoir un impact et représenter des risques environnement encore insoupçonnés. C'est-à-dire qu'on commence à parler depuis quelques années des microplastiques, mais on a pour l'instant aucune idée de ce qu'il peut y avoir comme interaction aussi avec d'autres composés. On ne sait pas, en fait, la dégradation des plastiques, ce que ça peut donner. Alors, pour solution, les chercheurs évoquent celle de l'économie circulaire, avec l'idée d'une part de concevoir des produits pour leur recyclage, afin qu'ils puissent être réutilisés et non pas gaspillés. Donc, du coup, on aurait cette persistance qui permettrait de reproduire les mêmes choses. On sait que c'est déjà mis en place. On comprend très bien que ce n'est pas du tout une solution totalement optimale. Et l'idée, d'autre part, serait de mieux évaluer la sécurité et la durabilité de ces produits tout au long de leur vie dans le système de la Terre. Et ça, on sait très bien qu'on en est encore très très loin. Et donc, du coup, depuis plusieurs jours, depuis vers le 10 janvier, je crois que cette information a été diffusée, eh bien, on s'alarme en plus donc de cette nouvelle limite planétaire qui vient d'être franchie. C'est celle de la pollution chimique qui, du coup, est quelque chose... on sait que ça existe, mais on ne se rendait pas compte, là encore, de l'ampleur de la catastrophe.
Oui, mais je crois que là, de jour en jour, on s'en rend compte. Bah, on parle du fameux océan de plastique, enfin continent de plastique, hein, je crois.
Bah, qui est l'image qui illustrait en général dans les médias cet article. Hein. J'ai vu plusieurs fois et c'était toujours cette image d'océan, de bouteilles en plastique qui traînent comme ça.
Surtout quand on regarde depuis combien d'années existe le plastique et au regard de depuis combien de temps l'humanité existe sur Terre.
Bah justement, là, ils sont sur une échelle de 10 000 ans. Et évidemment, les plastiques, ça a quoi? Ça a 200 ans? Je ne sais pas, même pas.
Même pas.
Même pas. C'est fascinant. Mm. Si tu prends du recul par rapport à ça et que tu te dis, mais on a une production extraordinaire de plastique, sans se soucier que, en fait, mais c'est très, très souvent le cas, on produit parce qu'on a un besoin dans l'instant et puis on verra après.
Et on doit gérer les conséquences, et d'ailleurs on ne sait pas les gérer.
On ne sait pas les gérer parce qu'on considère toujours que c'est la génération suivante qui gérera ça. Ça a toujours été comme ça en fait. Sauf que là, bah, la génération suivante, c'est la nôtre. Et puis ça va être encore celle d'après qui
et
vont.
Celle d'après. Ouais. Et qui viennent déjà nous dire, en fait, non, nous, on n'a pas envie de récupérer vos déchets, merci.
Ça. Bah oui, mais le problème, c'est que on a un peu l'impression dans ces domaines liés au développement durable, biodiversité, environnement, on a l'impression qu'on est un peu en retard. Enfin, je veux dire que c'est peut-être même trop tard. Toi, très souvent, on parle de ces sujets dans cette émission, et on n'a jamais une bonne nouvelle, en fait. J'ai toujours l'impression qu'on nous donne encore une information en disant ce que vous avez fait depuis un certain temps est mal et qu'on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Et sur l'instant, on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Et puis en fait, on a l'impression que les solutions qui existent, qu'on arrive à identifier, sont mises en pratique de façon anecdotique en fait. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un plan d'action planétaire, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas un ou deux pays qui vont prendre quelques solutions qui ça va résoudre le problème. Bien sûr que non,
que ce soit
malheureusement.
Ouais.
Quand on voit que l'Antarctique est même déjà concerné, c'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai bien plombé l'ambiance moi aussi et je suis assez fier de cette émission qui plombe l'ambiance. Est-ce que tu as un article joyeux ou on écoute une musique?
Alors, je ne sais pas si l'article est particulièrement joyeux. Il peut se raconter avant ou après la musique, c'est comme tu veux.
Donne-nous le titre. Ouais.
Alors, en fait, on va justement prendre du recul. Je me dis que là, ça va nous faire du bien. Et tu connais mon amour pour la paléontologie.
Tout à fait.
Voilà. Donc, en fait, c'est la découverte d'un ichthyosaure géant en Angleterre.
Alors là, il faut que tu nous en parles tout de suite, parce que ça, on veut savoir ce
et
que
je vais
c'est.
Vous expliquer, en effet, qu'est-ce que c'est qu'un ichthyosaure, puisque mais nos auditeurs ne savent pas forcément à quoi ça ressemble. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelait un poisson lézard. Alors, comment est-ce qu'il a été retrouvé? C'est ce que je vais vous raconter tout de suite. Et c'était donc en Grande-Bretagne. Évidemment, il s'agit d'un fossile, hein, bien sûr, à tous les amoureux de Jurassic Park. Voilà, il s'agit évidemment d'un fossile. En fait, il y a une zone humide protégée anglaise qui s'appelle la Rutland Water Nature Reserve et qui vient de livrer le squelette complet d'un ichthyosaure de 10 mètres de long.
Ah oui, quand même.
Je laisse quand même vos...
À 10 mètres de long.
Oui, oui, oui. Et alors, c'est là justement que je vous invite à aller regarder sur Internet, parce qu'il y a des photos qui permettent de se rendre compte, en fait, déjà de à quoi ça ressemblait un ichthyosaure. Je vais vous détailler un peu plus bas, mais là, vous aurez l'iconographie. Et en fait, de se rendre compte, ils ont mis sur les photos, justement, alors j'imagine de certains de l'équipe de recherche à côté de certaines parties du fossile. Et c'est là où, quand même, on se rend compte, oui, de la dimension de la bête. Alors, Joe Davis, le chef de l'équipe de conservation de la zone, il l'a en fait découvert de manière complètement fortuite sur une île formée après la vidange temporaire d'un lac. Et oui, ça peut arriver. Des fois, il faut nettoyer, on retire l'eau. Et donc, en fait, il pensait d'abord avoir découvert de vieux tuyaux enterrés. Comme quoi, il faut toujours vérifier, ça peut voir le
monstre
coup.
Du Loch Ness.
C'est ça, et peut-être, oui, voilà, bon. En effet, on n'est pas loin du lieu, normalement, de vie de Nessie, hein, en Écosse. Mais, en fait, il s'est rendu compte qu'il s'agissait plutôt d'un dinosaure. En fait, il venait de découvrir le plus grand squelette d'ichthyosaure jamais mis à jour en Angleterre. Alors, les ichthyosaures, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, on les appelle littéralement, enfin, ça veut dire poisson lézard. Et en fait, ils ont hanté les mers du Trias inférieur. Alors, le Trias inférieur, pour vous reciter, situé, c'était il y a 257 à 252 millions d'années. Donc il n'y a pas très longtemps, voilà.
C'était avant-hier.
Ça a commencé là, jusque, donc 257-252 millions d'années avant nous, jusque vers 93 millions d'années. Là, on était au Crétacé, Voilà, donc ils ont à peu près vécu sur toute cette période-là, ah oui, donc qui est quand même longue.
C'est longue, oui.
C'est-à-dire à peu près de 66 à 100 millions d'années, leur durée d'existence. Ces reptiles marins, qui sont d'origine terrestre, comme les cétacés actuels, ils constituent un ordre dont pas moins de 105 espèces sont connues, quand même. Hein. Et ils occupaient les niches écologiques des requins, des dauphins et autres orques actuels. Voilà. Alors, à quoi ils ressemblent morphologiquement ? Eh bien, derrière un bec armé de nombreuses dents fines, qui sont aptes à saisir un poisson, ils possédaient le même genre de corps taillé pour la nage donc, que les cétacés, à ceci près que leur nageoire caudale était verticale, comme les requins. Les quatre membres de ces anciens tétrapodes terrestres étaient transformés en palettes natatoires, au contraire des cétacés qui n'en ont que deux. Et les deux membres postérieurs, en fait, ils étaient noyés dans le corps. Voilà. Ils avaient également une nageoire dorsale qui achevait de leur conférer une silhouette tenant à la fois du requin et du dauphin. Alors, l'ichthyosaure de la réserve naturelle anglaise, qui a été découvert, donc c'est le plus grand et le plus complet jamais découvert en Grande-Bretagne. C'est un individu qui fait partie de l'espèce, attention, non latin, c'est
vas-y,
le moment.
Vas-y, lance-toi.
Temnodontosaurus trigonodon. Je trouve ça assez sympa comme nom. Donc de 10 mètres de long et qui fait de cette espèce en fait la troisième par la taille parmi les ichthyosaures. Je rappelle qu'on connaît 105 espèces apparemment d'ichthyosaures. Donc là, la troisième plus grande. On est dans les mastodontes des ichthyosaures. Toutefois, les découvertes d'ichthyosaures géants, en fait, elles ne sont pas rares puisqu'on connaît déjà des spécimens de plus de 20 mètres. Et la formation, en fait, dans la formation qu'on appelle Fossil Hill, qui se trouve dans le Nevada, on vient tout juste de découvrir Cymbospondylus jungorum, un spécimen de 17 mètres de long. Lui, il date du Trias moyen, donc c'est 247-237 millions d'années, et c'est le plus ancien ichthyosaure géant connu. Donc en gros, ça veut dire que dans les fouilles qui sont réalisées, on en trouve souvent, mais il n'y a quand même pas longtemps, on a découvert justement le plus ancien connu. Alors le nôtre, là, celui de Grande-Bretagne dont on parle depuis tout à l'heure, donc Temnodontosaurus trigonodon, il vient allonger la liste des ichthyosaures de grande taille. À elle seule, sa tête en fait pesait environ une tonne, et c'est là qu'il y a une photo en fait un peu sympa. Il y a une femme qui est à côté. Enfin, on se rend compte en fait de la taille de la tête. En gros, je crois que ça fait à peu près, elle est plus petite que la tête. Hein. Et en plus, ça pesait une tonne. Et donc le genre auquel il appartient en fait, il a été représenté entre 196,5 et 175,6 millions d'années. C'est très précis, c'est-à-dire que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les 105 espèces connues des ichthyosaures, elles se répartissent visiblement à différents moments des temps géologiques au sein du Trias.
On est capable de pouvoir dater entre guillemets.
C'est ça. On est capable de pouvoir dater. Et là justement, donc j'ai donné la fourchette, mais les paléontologues anglais, ils ont daté plus précisément et en fait, ils estiment son âge à environ 180 millions d'années.
D'accord.
Voilà, donc il est, on va dire, un peu plus récent justement que notamment les plus anciens découverts dont je parlais juste avant. Les membres en fait de ce genre-là sont remarquables par la taille de leurs yeux, dont le diamètre peut atteindre 20 cm. Cela suggère, parce que du coup on apprend évidemment des choses sur leur habitat, etc., qu'ils vivaient dans les zones profondes et obscures de l'océan. Et donc ce qu'on peut en déduire, c'est que le fond du lac où il vient d'être mis à jour, eh bien, en fait, ça a été certainement un océan au début du Jurassique. Donc ça nous aide aussi à confirmer, j'allais dire géologiquement, ce que certaines zones étaient à l'époque et également à en apprendre plus sur toutes ces espèces d'ichthyosaures et qui contiennent donc des genres très différents et des individus donc avec des dimensions quand même impressionnantes.
Mais justement, il existe aujourd'hui des animaux aussi grands ? Non ? Je ne sais pas, enfin, ça ne me dit rien.
Oh, je pense quand même dans les dinosaures.
17 mètres. Non, vivant.
Ah ben, vivant. Ah ben non. Enfin, faudrait peut-être qu'on dise une bêtise, il faudrait vérifier.
J'ai pas l'impression.
Peut-être dans certains.
Certaines baleines, non ? Elles vont pas jusqu'à 17 mètres.
Non, je pense pas. Ça, on va vérifier ça pendant le titre, peut-être.
Eh bien, oui, et puis juste après, parce que comme on est dans une émission un peu anxiogène, écoute, je te propose juste après le titre de parler de la fin de l'humanité, comme ça,
oui,
ça sera fait,
hein, allons-y.
On sera tranquille. Et pendant ce temps-là, on va essayer de se renseigner pour savoir quelle est la taille du plus grand animal vivant, en fait.
Vivant de nos jours.
Peut-être un genre de baleine, on verra ça. On écoute Black Pumas, tiens, peut-être, non, c'est pas un puma, ça fait pas 17
non,
mètres.
Non, ça fait pas 17
ridicule.
Mètres.
À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Non, attends, faut que j'appuie sur le bon bouton. Pardon, c'est parti.
Graphite 94.9 FM.
Et alors, est-ce qu'on a la réponse pendant qu'on écoutait Black Pumas avec Oldman sur l'antenne de Graphite?
Oui, on a la réponse puisqu'on est tellement rapide pour la trouver, pour la chercher. En fait,
merci au moteur de recherche.
Merci, oui, voilà, hein, qu'on ne citera pas. Mais en tout cas, donc oui, il existe des animaux donc, qui feraient à peu près ces dimensions-là, 17 mètres de long à l'heure actuelle. Et là, il s'agit en effet de cétacés, donc de baleines ou rorquals. Mais en fait, ces deux mots, finalement, désignent la même chose. C'est juste que rorqual, ça veut dire en fait baleine à tuyau. Donc je pense que c'est une espèce, on dit rorqual pour les espèces de baleines un peu différentes. Voilà. Mais du coup, il en existe de 17 mètres de long.
Oui, donc d'accord. Mais ça doit être impressionnant. Je ne me rends pas compte ce que ça peut être une baleine de 17 mètres de long.
Et bien apparemment, justement, il y a quelques années, il y a un rorqual qui s'est échoué sur les côtes françaises. Donc c'est pour ça que je retrouvais l'article là. Donc ça devait être impressionnant. Il y a quelques photos. J'invite nos auditeurs à aller jeter un œil pour se rendre compte de à quoi ça ressemble comme baleine. Oui, oui.
Vous écoutez Graphite tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis entre 10h et 11h. Sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Et donc aujourd'hui, vous avez compris, on va parler de la fin du monde. Comme ça sera fait, parce qu'on est bien dans une émission un peu triste. On a envie de parler
mais
de la
non,
fin du monde.
Mais non,
et donc on
c'est
va parler
toi qui
veux
absolument
monde.
Nous parler
c'est
de la
pas
fin
moi,
du monde.
C'est les articles, hein. C'est comme ça que ça se passe. Et donc on va donc, comme je vous le disais avant le titre, parler de la fin de l'humanité. Et la fin de l'humanité, on ne sait pas quand est-ce que c'est, hein, pour l'instant. Moi, j'ai pas reçu de notification, on m'a pas donné de date. Faudra qu'on me prévienne. Mais en tout cas, on est en train de préparer la fin de l'humanité et on va parler notamment de boîte noire. Alors, dans tous les avions, on connaît ce principe de boîte noire. Il n'y a pas un film qui existe d'ailleurs.
Mais si, il n'y a pas longtemps, c'était fin d'année dernière, il y a un film qui est sorti justement où donc on parle de boîte noire puisque c'est le cœur de l'intrigue et on voit en fait en direct, apparemment c'est d'ailleurs très fidèlement reproduit, la façon dont justement on extrait en fait la boîte noire que là en l'occurrence on a retrouvée au fond de l'océan après le crash d'un avion. Et ensuite évidemment, c'est de toute son analyse que va découler en fait l'intrigue du film.
Eh bien, cette idée de boîte noire, alors comme tu l'as dit, on comprend un petit peu ce qui se passe, enfin à quoi ça sert notamment dans les avions, c'est l'idée de pouvoir enregistrer toutes les opérations menées par l'équipage et donc en cas d'accident, ça permet d'avoir un petit peu le fil de la catastrophe, ça c'est au niveau de l'avion. Eh bien, on a un petit peu l'idée de chercheurs australiens qui ont un petit peu l'idée de faire la même chose au niveau de notre planète avec ce projet de construire une gigantesque boîte noire destinée à enregistrer au jour le jour des données sur la façon dont nous nous battons contre le réchauffement climatique. Donc on a l'idée de construire une boîte noire qui va un petit peu enregistrer la fin de l'humanité. L'objectif, c'est de laisser de précieuses informations sur le crash entre guillemets de l'humanité aux populations qui pourraient nous survivre ou alors également à des civilisations extraterrestres. Alors, comme la boîte noire d'un avion, on essaye de placer cette boîte noire de façon judicieuse dans un endroit qui va être désigné par les chercheurs comme étant le plus sûr de notre planète, d'un point de vue stabilité géographique et d'un point de vue stabilité politique. Et donc, ils ont réfléchi, les Australiens, ils se sont dit, oh là, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ils ont choisi deux pays.
Lesquels ?
Alors, l'article nous parle du Qatar. Bon, je ne sais pas.
Oui, on ne sait pas pourquoi.
Je ne vois pas pourquoi le Qatar. Peut-être qu'ils avaient besoin d'argent pour financer leur recherche, j'en sais rien. Je ne dis rien. Et le deuxième pays, c'est la Norvège.
Oui.
Alors la Norvège, on arrive peut-être à comprendre mieux la stabilité. Et finalement, c'est la côte ouest de la Tasmanie qui a été choisie parce que ça a été retenu notamment parce que cette question a été abordée aussi par l'université de Tasmanie. Ils se sont dit, oh bah tiens, on va leur faire plaisir, ils ont parlé de ça, on va les mettre là-bas. L'idée donc de cette Earth Black Box, c'est-à-dire une boîte noire de la Terre, c'est de construire une boîte noire grande comme un bus, en à peu près sur une dizaine de mètres de long, et ça a un peu la forme d'un abribus retourné, nous dit-on, et qu'on a recouvert d'une couche de plus de 7 cm d'acier trempé de granit pour essayer de faire en sorte que ça puisse résister à toutes sortes de catastrophes. Et au cœur du système, il y a une série de disques durs alimentés par énergie solaire et connectés à Internet qui vont permettre d'avoir des unités de stockage qui vont enregistrer plein d'informations sur notre Terre. La température du globe, l'acidification des océans, les données sur l'utilisation des différentes terres, donc en termes de terres agricoles, les dépenses militaires, les consommations d'énergie, la croissance de la population mondiale. On retrouvera aussi à l'intérieur les unes des journaux qui seront donc stockées, des publications sur les réseaux sociaux. Espérons qu'il fasse un tri, parce que si...
Oui, je pense que là, il y a beaucoup de choses à enlever.
Et les principales informations tirées des réunions sur le changement climatique. Donc, toutes ces données vont être stockées dans cette boîte noire géante. Et à tout moment, il sera possible, alors on ne sait pas trop comment, mais il sera possible d'accéder aux données climatiques qui seront donc contenues dans cette incroyable boîte noire. Alors, l'idée, elle apparaît de prime abord surtout un peu comme apocalyptique. En fait, l'attention des chercheurs, c'est avant tout de nous offrir les bases sur lesquelles demander des comptes à nos dirigeants en enregistrant leur action ou leur inaction. Dirigeants, mais aussi population, si on extrapole quand même un peu, avec l'idée de rappeler à chacun ses responsabilités, bien évidemment. L'espoir, c'est d'inspirer une action urgente, bien sûr, pour nous tirer de ce faux pas. Quand les gens sont enregistrés, cela a généralement une influence sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils font. C'est ce que disent les chercheurs australiens par rapport à ce projet. Oui, espérons, on verra bien. En tout cas, si l'opération devait échouer, donc que l'humanité devait s'effondrer, eh bien cette boîte noire resterait comme le triste témoin de notre désastre. En supposant bien sûr que la Terre tout entière n'ait pas elle aussi été détruite, parce qu'évidemment on a mis cet abribus sous une couche de granit, mais si tout est détruit, ça ne sert à rien, on ne retrouvera plus rien. Et puis aussi que les civilisations qui vont retrouver cette boîte noire, on ne sait pas quand, soient en mesure de pouvoir déchiffrer les messages, parce que les messages que l'on met aujourd'hui, on est capable de les déchiffrer avec notre intelligence et le contexte actuel. On est capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, je l'espère. Dans X millions, milliards d'années, je n'en sais rien. Est-ce qu'on sera capable de pouvoir déchiffrer ces messages ? C'est autre chose, bien évidemment. La technologie sera modifiée et aussi la civilisation. Et peut-être qu'on ne comprendra pas avec le regard qu'on aura à ce moment-là ce qu'il se passait aujourd'hui au XXe siècle, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, il y a des scientifiques qui construisent une boîte noire qui va pouvoir enregistrer la fin de l'humanité. Écoutez, c'est dit, c'est fait, c'est la fin de l'humanité. Paco Rabanne, je ne sais pas, on a reçu une notification de Paco Rabanne, nous a dit quand est-ce que c'était ? C'est un mardi ?
Pas ma connaissance, non, je ne sais pas.
C'est un mardi, mercredi ?
Je ne sais pas.
Ça encore tombé un jour de semaine, ça va nous casser les pieds.
Enfin, après, je crois que ce ne sera pas très grave, oui, voilà. On aura un dernier week-end avant la fin du monde.
On aura un dernier week-end avant la fin du monde, bien évidemment, bien sûr. Donc voilà.
Mais merci en tout cas, oui, pour ces nouvelles réjouissantes.
Je trouvais l'idée, quelque part, il y a bon, il y a un coup de com', évidemment,
bien sûr.
Avec l'idée d'une sensibilisation à grande échelle. Derrière, c'est intéressant, je trouve, parce que finalement, comment on peut essayer aujourd'hui de transmettre des messages à une civilisation future, mais dans un futur très lointain? Comment on peut communiquer avec cette génération future? On n'en sait rien. Comment on a pu réussir à... Enfin, on voit très bien avec les pyramides actuellement, ça a quoi, 3000 ans à peu près? On n'est pas capable de comprendre comment ils ont construit ça. Ça ne fait que 3000 ans. C'est rien dans l'histoire de l'humanité en termes de durée. Là, on est sur des durées beaucoup plus longues. Alors, si on n'arrive pas à transmettre une information aussi simple que la construction des pyramides en 3000 ans, comment on va pouvoir expliquer l'histoire de l'humanité et toutes les décisions qui sont prises actuellement vis-à-vis du réchauffement climatique dans X millions ou milliards d'années? Toi, c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Alors, ça le résout. Ça pose juste une question. Ça n'apporte aucune réponse. Cette boîte noire, en fait, dans une couche de granit. Mais ça pose une question qui est comment on informe également la population future. J'avais assisté à une conférence très intéressante et le conférencier a abordé le sujet de l'enterrement des déchets radioactifs.
Oui.
Et on disait, bien évidemment, c'est facile, on sait où ils sont. Alors oui, on le sait où ils sont aujourd'hui. Comment on saura où ils sont dans 100 000 ans? Et en fait, quand on pose cette question, on avait fait cette conférence au sein d'une classe de lycée, et finalement, c'est simple, on met un panneau. Bah oui, mais le panneau, il va pas durer 100 000 ans. Comment on est certain que le panneau, dans 100 000 ans, il sera toujours au même endroit en disant, attention, ici, il y a des déchets radioactifs. Et en fait, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, sur une grande durée, de pouvoir transmettre des données précieuses pour la survie de notre humanité. Et là, c'est un petit peu ce que met en avant cette boîte noire qui, justement, a au moins l'ambition de se dire on va enregistrer des données d'une façon impartiale, parce que ça aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans l'analyse, mais on est juste sur des données brutes qui sont stockées, et l'analyse se fera selon le regard que l'on aura au moment où on va découvrir, bien sûr, cette boîte noire. Aujourd'hui, on aura un regard sur ces données, et dans X années, on aura un regard totalement différent, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire
mais c'était
pour
passionnant.
Cette information. Mais je vois très bien, je te vois tellement attentive sur la fin de l'humanité que je te propose peut-être d'écouter un nouveau titre. Et puis
allons-y, ça nous détendra peut-être avant un sujet, quand même un petit peu plus léger, un sujet très scientifique. Oui, non, on ne démarre pas la musique trop vite quand même.
Je vais voir si ça marche.
Apparemment, ça fonctionne.
Je m'amuse avec des boutons, j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit ?
Évidemment, vas-y, je t'en prie.
Non, parce que toi...
En fait, je suis en train de gérer une crise en parallèle, mais on ne peut pas la communiquer à nos auditeurs.
tu vas voir le génie que je suis. Je viens de te parler d'une boîte noire, Black Box, et on va écouter Black Box Revelation. Et ça, c'est une transition géniale. C'était bien sûr pas prévu.
I'm a war horse. I'm a war horse.
Graphite, également à l'écoute sur internet www.graphite.net.
Et c'était Black Box Revelations avec War Horse. Oui,
très
oui,
sympa,
parce que voilà.
Titre.
Et puis on va poursuivre, comme ça, ça sera fini, avec cette nouvelle étude américaine qui explique que la cigarette électronique, le vapotage, entraînerait des effets néfastes sur les yeux. En cause, plusieurs produits présents dans les arômes et les solvants des cigarettes électroniques. La composition du liquide contenu dans une cigarette électronique est loin d'être anodine. Et il y a des chercheurs américains dans la revue International Journal of Ophthalmology qui expliquent que ces appareils contiennent des produits chimiques cancérigènes, des polluants atmosphériques et des métaux lourds. Le but de cet article est de faire la lumière sur les effets connus du vapotage sur le milieu oculaire, donc au niveau des yeux bien sûr, et pour mener à bien la recherche, les spécialistes ont recueilli leurs informations auprès de plus d'un million de personnes, donc c'est quand même sur un panel assez important. Mais entre 2016 et 2018, donc c'est un petit peu le début des cigarettes électroniques, les participants devaient communiquer sur leur déficience visuelle et la fréquence d'utilisation de la cigarette électronique. Résultat, deux composants chimiques peuvent perturber le film de l'arme qui protège la partie de l'œil en contact avec l'extérieur. Et de plus, la couche lipidique qui protège les larmes de l'évaporation peut être endommagée par les arômes de vapotage. Les chercheurs notent que la nicotine peut interférer avec la vision rétinienne adaptée à la lumière. Et donc, les explosions liées au vapotage, bien qu'imprévisibles, peuvent également entraîner une diminution de l'acuité visuelle ainsi qu'un traumatisme oculaire à long terme. C'est ce que conclut cette étude. Ce que je veux dire par là, c'est que...
C'est quand même pas anodin, quoi, comme
non,
effet.
Et en fait, la cigarette électronique, j'en parle régulièrement parce que dès le départ, je ne sais plus quand est-ce que ça a démarré, la cigarette électronique, 2015, je crois, dans ces eaux-là, j'avais dit aux auditeurs, on va suivre ce sujet régulièrement, parce que quand la cigarette électronique a été mise sur le marché, on n'a eu aucune information, on n'a jamais eu un recul nécessaire et aucune étude sur les effets néfastes ou pas de la cigarette électronique. Et on a dit, le discours était, prenez la cigarette électronique parce que c'est très bien, ça vous permet de vous sevrer, ainsi de suite. Très bien. Mmh. Et au fur et à mesure, le recul fait qu'on a des informations et aujourd'hui, aucun article qui parle de la cigarette électronique ne donne des bienfaits sur ces cigarettes. On n'a eu que des articles qui parlent des effets négatifs.
Négatifs, bien sûr.
Ça a été des solvants qui sont cancérigènes, on en reparle ici. Là, ça parle des yeux, c'est la première fois qu'on évoque ce sujet-là. Mmh. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire une analogie avec la situation des vaccins, par exemple. Je vais prendre cette analogie sur ces deux, sur ces deux choses. Il y a un moment où on dit on n'a pas le recul. Dans le cas de la cigarette électronique, c'est évident parce que ça venait de sortir. Dans le cas des vaccins ARN, non. Parce que les vaccins ARN, c'est une technologie qui a 20 ans. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je veux toujours rappeler aux auditeurs, et c'est un petit peu ce que je vous disais lors de l'émission de la semaine dernière, où pour cette nouvelle année, je vous disais il faut avoir du bon sens et de la patience. Oui, parce que il y a d'un côté, on a les informations, il faut arrêter de nous dire que c'est un vaccin qu'on expérimente sur... Non.
Sur des millions de personnes, ça, on est d'accord, ça n'est pas vrai.
Oui. Ça n'est pas vrai. Par contre, au niveau de la cigarette électronique, par contre, là, oui, parce que là, c'était totalement nouveau, bien évidemment. Et je trouve qu'on a peut-être de façon hasardeuse lancé sur le marché un produit dont on n'avait aucune idée sur les effets bienfaits ou néfastes de ce produit-là. Et en fait, avec le recul, maintenant, on est en 2022. Là, on parle d'études qui parlent de 2016-2018. Donc, c'était les tout débuts, justement. Et on commence à avoir des résultats aujourd'hui. Ben oui, évidemment, la science se construit au fur et à mesure et on n'aura pas des informations comme ça d'un coup de baguette magique. Ça se fait sur la durée. C'est ça aussi la démarche scientifique. La recherche, elle est comme ça. Et je trouve cet exemple de la cigarette électronique. Pas peu fier de l'avoir choisi à ce moment-là.
On le sent, on le voit.
Mais oui, parce que j'avais dit, je me souviens, j'ai dit on va suivre ça de près, parce que j'avais dit à l'époque, vous verrez, dans quelques années, on aura des articles qui vont nous dire si c'est bien ou pas.
Oui.
Je n'en savais rien, moi, sur l'époque. J'étais comme tout le monde, on ne savait pas. Sauf que ce n'est pas nécessairement ce qu'on nous a dit à l'époque. Et il y en a plein qui ont pris des cigarettes électroniques. Et bien finalement, on s'est rendu compte par la suite que ça a été beaucoup plus compliqué que ça ne devait l'être au départ, justement. Et ce nouvel article permet justement d'avoir un regard. Faut pas se leurrer. Enfin, à partir du moment où même des cigarettes normales, Oui, effectivement, ça apporte plus de mal que de bien.
On se doutait bien qu'il y avait des composants. Alors après, c'était toute la question de savoir, dans le cas de personnes qui fumaient déjà, finalement, il y avait peut-être un bénéfice qui était plus important, parce que si ça aidait au sevrage, encore une fois, tout dépend quel est l'usage.
Mais évidemment,
il y a des gens
qui mettent ça dans la balance.
Voilà, il y a des gens. C'est vrai qu'il y a eu tellement. Il y a aussi, un intérêt du marché, un intérêt commercial énorme. Il y avait, je me souviens, à une époque, là, c'est en train un petit peu quand même de couler. Hein, mais il y avait des magasins qui ouvraient partout de composants pour la cigarette électronique. Et en fait, là où je pense, du coup, ça peut avoir des effets, ça peut concerner la santé publique sur le plus long terme, c'est des gens qui ne fumaient pas, mais qui se sont mis à la cigarette électronique pour le côté, soi-disant plus sain et j'allais dire avec moins d'effets secondaires, moins d'impact sur la santé. Et c'est tous ces gens-là qui finalement, là, on voit quand même avec des causes cancérigènes, enfin des conséquences là maintenant sur les yeux qui sont quand même pas du tout anodines.
Non, t'as entièrement raison en disant, est-ce que la cigarette électronique est mieux ou moins bien pour un fumeur, un gros fumeur de cigarettes normales, je ne sais pas comment on les appelle. Ça, c'est une bonne question. On n'en sait rien. Mais effectivement, il y a eu un effet de mode où des gens ont fumé de la cigarette électronique parce qu'on s'est dit, on risque rien. Mais il faut se rappeler des messages de l'époque. On ne risque rien. C'est aussi quelque part ce qu'on nous disait. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je fais un parallèle avec la situation actuelle où là, ce n'est pas du tout la même chose vis-à-vis des vaccins. On est sur une technologie qui a 20 ans. La cigarette électronique, ça n'a pas 20 ans, en fait. C'est tout. Voilà, le message est dit. Cette émission est particulière. Allez, il nous reste encore un petit 5 minutes pour un dernier article.
C'est parfait, ça va être un article, j'allais dire, qui n'est pas trop long et qui va nous permettre de changer de sujet, s'aérer un petit peu.
Oui, parce qu'il faut dire, je suis désolée pour cette émission, aujourd'hui, elle était un petit peu...
C'est la deuxième émission de l'année et là, on met la barre très haute en termes d'ambiance.
Oui. Là, on est en train d'écumer toutes les informations un petit peu difficiles et puis après, on s'amusera.
C'est pour ça, moi, je reviens vraiment au cœur de la science puisque c'est une étude, en fait, que j'avais repérée en fin d'année dernière, qui a été publiée sur le site du CNRS. Là, on revient au cœur de la science avec une étude sur en fait le comportement du cerveau pendant le sommeil, où on a regardé finalement ce qui se passait dans le cerveau des dragons. Alors les dragons, oui, les dragons qui existent vraiment, vous allez voir. Et on les a comparés en fait, ce cerveau-là et ce qui se passe pendant le sommeil, on l'a comparé aux pigeons et aux autres mammifères. Puisque en fait, chez de nombreux mammifères, le cerveau se refroidit pendant le sommeil lent et se réchauffe pendant le sommeil paradoxal. Donc j'imagine que du coup, ça doit être le cas chez l'homme. Et en fait, il s'agit d'un article qui a été publié dans la revue eScience, où les scientifiques ont démontré que les pigeons présentaient des changements similaires de température cérébrale pendant leur sommeil, alors que la température du cerveau ne variait pas chez les lézards-dragons barbus.
Ah, les dragons, c'est des lézards.
En fait, les dragons, mais notamment, on connaît par exemple, très connus, c'est les dragons de Komodo, qui se trouvent là sur certaines îles, qui sont en fait des sortes de varans. Il y en a à Singapour notamment, on peut en voir dans certains parcs. Alors là, c'est le lézard-dragon barbu, celui-là, je ne le connais pas personnellement, mais on a comparé ce qui se passait en fait du coup entre ces différents animaux. Alors, ce réchauffement cérébral et par conséquent les probables fonctions associées ne semblent donc pas universelles à toutes les espèces. Ce qu'il faut savoir, je refais un petit peu d'historique pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que le sommeil chez les mammifères, il est composé de deux états, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ce dernier état, donc l'état paradoxal, présente une activité cérébrale semblable à celle de l'éveil. On sait qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Donc chez de nombreux mammifères, après s'être refroidi pendant le sommeil lent, le cerveau se réchauffe pendant le sommeil paradoxal. Il a été suggéré que cette augmentation pourrait préparer le cerveau à l'éveil qui, du coup, se rapproche. Dans le cadre donc d'une collaboration avec l'Institut Max Planck d'ornithologie, les chercheurs ont pu étudier la température du cerveau chez des pigeons et des lézards-dragons barbus. Ces espèces appartenant à la même branche évolutive, d'où pourquoi est-ce qu'on les a considérées, c'est pour ça, partagent un ancêtre commun avec les mammifères et présentent deux états de sommeil similaires à certains égards à ceux des mammifères. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les lézards-dragons, les pigeons, et puis on a voulu comparer aux mammifères. Cependant, à l'instar des mammifères, les oiseaux sont capables de maintenir un métabolisme élevé et une température corporelle constante, ce qui n'est pas le cas des lézards. L'étude de ces animaux consiste donc une approche déterminante vers la compréhension de la fonction du sommeil paradoxal. Chez les pigeons, les scientifiques ont pu constater un refroidissement cérébral pendant le sommeil lent, et un réchauffement cérébral faible mais constant lié au sommeil paradoxal. Chez les dragons barbus, la température du cerveau ne change pas lorsque les animaux passent à un état de sommeil présentant une activité cérébrale semblable à celle d'un réveil. Ces résultats semblent donc en fait en contradiction avec l'hypothèse selon laquelle il existerait une fonction universelle des états de sommeil qui serait de réchauffer le cerveau en vue de l'éveil. Cette absence de réchauffement cérébral pendant le sommeil pose ainsi la question de la réelle similarité du sommeil des lézards avec celle des mammifères et notamment celle du sommeil paradoxal. Donc on a encore visiblement beaucoup à découvrir pour comprendre déjà comment ça se passe en effet durant cette phase de sommeil paradoxal et entre les espèces, qu'est-ce que ça signifie ces différences ?
C'est la première fois que j'entends qu'on relie le sommeil à une notion de température du cerveau.
Oui. Ben c'est pour ça que j'avais vraiment repéré cette étude que je trouvais très intéressante.
J'en ai jamais entendu parler, ouais. Ça ne me dit rien.
Et donc ça veut dire chez les mammifères et donc l'homme, il y a justement ces différences métaboliques.
J'ai jamais entendu parler, c'est intéressant.
En fonction des phases de sommeil. Ouais, tout à fait.
Parce qu'on peut peut-être se dire, si on extrapole, qu'on pourrait trouver des solutions pour les insomniaques, peut-être.
Peut-être. Alors là, je ne sais pas du tout. Ça fait pas le.
Très bonne question. Ça l'évoque pas, mais en fait, ça peut être une piste d'une thérapie douce, en fait. On ne serait pas sur des médicaments, en clair.
Je ne sais pas si les insomniaques ont des problèmes de réchauffement. Bah eux, justement, c'est des problèmes. Il faudrait leur refroidir le cerveau pour qu'ils réussissent à s'endormir. Je ne sais pas.
Peut-être, je ne sais pas. Toi, c'est la première fois qu'on associe les deux. Toi, on en apprend tellement dans cette émission. C'est tellement formidable.
C'est ça. Et surtout, là, je pense que c'est l'intérêt. Ça va être donc on a les branches évolutives. On a bien compris qu'il y avait un ancêtre commun. On a bien compris. Du coup, le lien entre les dragons lézards, les pigeons, les mammifères. Et en fait, visiblement, là, on voit bien, donc chez les dragons, ça ne se réchauffe pas. Chez les pigeons, ça se réchauffe légèrement. Et chez les mammifères, réellement. Mais en fait, moi, je ne savais pas qu'il y avait cette hypothèse de réchauffement universel. Donc, elle tendrait à être disqualifiée, en tout cas.
Ok, eh bien, écoute, c'est intéressant. Non, c'est la première fois qu'on aborde ce sujet dans cette émission, j'ai l'impression. Merci Carole. Écoute, la semaine prochaine, on essaiera d'être un petit peu plus léger et je te parlerai la semaine prochaine de cette start-up de la région de Bordeaux qui a trouvé une idée ingénieuse pour recycler le pipi.
Hein,
oh. Oui, parce qu'on ne sait pas quoi en faire.
Donc il y a quand même des velléités écologiques qui sont surprenantes, mais qui peut-être feront partie du monde de demain.
Et c'est possible, oui. Alors, je ne sais pas trop si c'est d'un point de vue écologique, on en parlera la semaine prochaine. Hein, parce
que hâte de savoir, oui, peut-être que je m'avance.
Je pense, oui, vu l'utilisation qu'ils en prévoient, mais bon, on verra bien. On en parlera la semaine prochaine pour l'émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Merci à vous de l'avoir suivi samedi prochain. Carole, t'es là, t'as rien à faire.
Évidemment, bien sûr.
Tout est week-end sur lui, bonsoir.
Mais oui.
Et bon, on se retrouve avec grand plaisir samedi prochain sur l'antenne de Graphite et on se retrouve bien sûr mardi à 10h pour la rediffusion. Bonne journée à tous sur l'antenne de
Graphite. Bonne journée, au revoir.
Et vous récupérez toutes les informations sur graphite.net. À bientôt, au revoir.